Et si on parlait de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs, en laissant de côté les posts LinkedIn qui se veulent inspirants? Dans le podcast En Off, produit par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros, des entrepreneurs reviennent sur leur parcours et leur rapport à la santé mentale au travail. Sans tabou. Dans cet épisode, je reçois Roxane Varza, directrice de Station F. Roxane, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci.
Tu es la directrice de Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde, créé en 2017. Je suis ravie de te recevoir pour que tu nous racontes ton parcours et ton quotidien à la tête de la pépinière qui a vu naître et qui voit toujours naître et grandir tant de projets entrepreneuriaux chaque année. Tu es née au cœur de la Silicon Valley et tu t'es très vite, au cours de tes études, intéressée au capital risque et aux start-up. Est-ce qu'on peut dire que tu es tombée dedans toute petite ou as-tu nourri cet intérêt pour le sujet en grandissant ?
Bah, en vrai, c'est arrivé un peu par hasard. J'étais pas du tout passionnée par la tech. Quand j'étais petite, j'étais passionnée par la France. Et je rêvais de vivre en France. C'est quelque chose que je n'arrive vraiment pas à expliquer. Tout le monde me pose la question pourquoi. Et je dis souvent qu'on n'explique pas toujours l'amour. Mais voilà, donc j'étais hyper intéressée par la France. Et un de mes premiers jobs en sortant de l'école, c'était de travailler pour ce qui est aujourd'hui Business France. Et je travaillais à ce moment-là beaucoup avec des startups qui n'avaient pas encore de siège ou de bureaux en France. Et donc, c'est comme ça, en vrai, que j'ai découvert les startups. Et quand j'ai commencé à rencontrer ces entreprises, j'ai découvert des gens qui étaient optimistes, intelligents, passionnés. Et donc, c'était plus via cette façon-là que j'ai découvert toutes les startups.
Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, pour entreprendre, il faut justement un état d'esprit différent d'il y a 10 ou 15 ans, quand l'écosystème était vraiment en maturation? Ou en fait, c'est toujours la même recette, entre guillemets.
C'est marrant, c'est une très bonne question. En vrai, je pense que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, peut-être on est un peu plus à l'aise avec certains éléments qui vont avec l'entrepreneuriat, prise de risque, peut-être l'échec. Mais en vrai, je pense que c'est la même mentalité.
Tu as cofondé Girls in Tech Paris et London au début de l'essor de l'écosystème startup en Europe. Est-ce que le collectif et l'entraide permettent de mieux entreprendre, selon toi ?
Pour moi, c'est extrêmement important de bien s'entourer et de s'entraider dans l'écosystème. Je pense que cet écosystème n'avance pas si on ne travaille pas en collectif. Et puis, je pense aussi que les différents projets vont aller beaucoup plus vite et vont avancer mieux si on sait bien s'entourer. Donc, c'est pour ça que Station F existe, c'est pour ça que tous ces différents réseaux, tu as évoqué Girls in Tech, qui est devenu Sista aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres et je pense que c'est vraiment une nécessité en fait pour le business et pour l'entrepreneuriat.
Et tu recommandes aux entrepreneurs et entrepreneuses qui passent par Station F de vraiment de s'intégrer dans des réseaux et de même d'échanger entre eux de...
Bien sûr, en fait, c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est pas naturel d'aller vers quelqu'un qu'on connaît pas, peut-être poser des questions, demander parfois quelque chose. Donc oui, c'est quelque chose que j'encourage et Station F est là pour, justement. Je pense que si on n'a pas envie de travailler en collectif, on ne vient pas à Station F. Mais je pense aussi que le mot, le concept de faire son réseau est un peu tabou. Enfin, les gens pensent que c'est très intéressé et en vrai, ça, c'est pas forcément le cas. Je pense qu'en fait, faire son réseau, ça peut être aussi donner avant de recevoir et c'est vraiment ça que j'essaie d'encourager.
Et est-ce que, parce que l'entrepreneuriat, on dit que c'est quelque chose de très solitaire, est-ce que toi, tu recommandes de chercher à s'associer dès le départ, de pas se lancer seul dans l'aventure?
Oui, c'est quelque chose qu'on recommande pour plusieurs raisons. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est extrêmement seul, mais aussi, il y a beaucoup de choses à faire pour qu'une entreprise marche. Être seul, devoir tout faire, devoir tout piloter, en vrai, c'est déjà se mettre des bâtons dans les roues, tout seul. Donc, bien s'entourer, c'est difficile. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément s'associer avec quelqu'un à tout prix. Il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup de temps pour trouver la bonne personne. Il y a beaucoup de programmes qui permettent de rencontrer des personnes avec qui on peut s'associer. Je pense notamment au programme qu'on a à Station F qui s'appelle Entrepreneur First, où on peut arriver sans projet et sans cofondateur, sans équipe et trouver tout ça pendant le projet. Je trouve ça fabuleux. Mais sinon, oui, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement délicat. On dit souvent que c'est comme un mariage et je pense que ça ne doit pas être moi.
Et donc, c'est un mariage qu'on peut faire entre amis, en couple, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer d'éviter de mélanger sentiments et business?
C'est vrai, il y a de tout. Il y a des familles qui s'associent, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, les maris, les femmes. En vrai, Il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux éviter tout ce qui est famille. En même temps, je pense que pour certaines personnes, ça marche. Donc, c'est vraiment chaque personne de trouver quelqu'un avec qui il est à l'aise, qui l'inspire, qui a peut-être les mêmes attentes, qui a la même façon de travailler. Il y a en fait des questions, je pense que ça s'appelle le co-founder dating, une liste de 50, peut-être une cinquantaine de questions, où c'est presque comme se poser des questions dans un couple, mais il y a parfois des sujets, c'est quoi le salaire que tu souhaites gagner dans quelques années, ou tu as besoin de travailler comment. Et en fait, on se pose des questions difficiles au début, et comme ça, on sait est-ce qu'on part dans la bonne direction ou pas.
Et est-ce qu'il y a des gros sujets sur lesquels s'écharpent généralement les associés et qui font qu'une association ne fonctionne pas ?
Je pense que justement, éviter de se poser ce genre de questions au début. En fait, c'est des questions parfois, les sujets de salaire, les sujets de couple. Est-ce que tu veux avoir une famille ? Est-ce que tu as une famille aujourd'hui ? Quelles sont tes priorités ? Je pense qu'il y a aussi un sujet de comment on classe nos priorités dans notre vie. Est-ce que l'entreprise arrive en tête ? Est-ce que ça arrive au milieu, en bas ? De vérifier qu'on est aligné. Et souvent, je pense que les cofondateurs qui ne se posent pas ce genre de questions au début ou qui ne savent pas quelle est la réponse de l'autre ou quand ça bouge, parce que évidemment, c'est pas non plus quelque chose qui est gravé dans le marbre qui va durer pour toujours. Quelqu'un peut se marier après quelques années et changer complètement ses priorités. C'est souvent ça que je vois qui crée pas mal de frustration dans les associations.
Quel type de dirigeante es-tu ? Comment est-ce que tu te décrirais ? Et surtout, comment est-ce que tu aimerais que les gens qui travaillent à tes côtés retiennent de votre collaboration ?
Je pense que c'est le mot que tu viens de dire, c'est collaboration. Je suis quelqu'un d'extrêmement collaboratif dans le sens où je pense que je vois l'équipe vraiment, pour moi, on est le même niveau en vrai. Je veux que chaque personne participe, se sente à l'aise pour participer, pour dire non, ça c'est une mauvaise idée ou il ne faut pas aller par là. J'aime aussi les personnes qui sont très efficaces et directes dans leur façon de communiquer. Parce qu'on a tellement de choses à faire à Station F, on a tellement de personnes qui viennent à Station F, tellement de sujets différents et variés. Donc j'aime bien quand ça va vite.
Ah oui. Et le recrutement, c'est quand même quelque chose qui peut être un peu compliqué dans une start-up, surtout quand on est en phase de croissance. Est-ce que tu as des conseils pour justement choisir les bonnes personnes qui fitent bien avec ton état d'esprit, avec l'état d'esprit de la boîte que tu montes ?
En fait, quand on a commencé Station F et on a fait les tout premiers recrutements, en vrai, c'était très dur pour moi d'évaluer un CV. Je n'ai pas grandi en France, je connais pas toutes les écoles, je ne connais pas toutes les structures. Donc en fait, la seule façon pour moi de voir est-ce que c'est quelqu'un qui va un peu fit avec moi, c'était de lancer tout de suite dans un projet potentiel. Donc demain, tu arrives dans l'équipe, tu veux travailler sur tel sujet. C'est quoi tes idées ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Comment tu abordes les différents sujets ? Et donc en fait, pour chaque candidat, on regarde de CV, mais c'est pas ça vraiment qu'on va essayer d'évaluer. C'est plutôt, on va poser plusieurs questions, et ça c'est ce qu'on fait pour chaque poste, en plus 3 à 5 questions, et on demande à cette personne, en fait, c'est quoi tes réponses ? Comment tu vois l'écosystème ? Comment tu vois ton sujet ? Et est-ce qu'on est aligné ? Est-ce qu'il y a des nouvelles idées qu'on aime ? Et donc ça permettait de rentrer dans le cœur du sujet assez rapidement avec chaque personne, et c'est comme ça qu'on recrute encore aujourd'hui.
On associe souvent entrepreneuriat et performance. Et il y a eu un peu une course effrénée à donner toujours plus, qui a longtemps été le maître étalon de la réussite. Que t'évoques, toi, cette notion de performance ? Quel rapport est-ce que tu entretiens avec le sujet ?
Performance, pour moi, en entendant le mot comme ça, je pense surtout aux chiffres, malheureusement. Je pense qu'on met énormément de focus sur les chiffres dans l'écosystème, la croissance et chiffre d'affaires et levée de fonds. Et voilà, on est en train de parler toujours de chiffres. Mais en vrai, l'entrepreneuriat, il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat. Il y a tellement de différentes façons de monter son entreprise. Il y a des micro-entreprises, il y a des personnes qui font ça pour pouvoir vivre avec plus de liberté, plus de flexibilité et pas forcément pour gagner plus et se lancer dans une centaine de pays tout de suite. Donc en vrai, je pense qu'on met beaucoup d'attention sur ce performance chiffré. Mais performance pour chaque personne peut dire quelque chose de complètement différent selon ses envies et selon pourquoi il ou elle a monté l'entreprise. Donc moi, j'ai plus envie que l'écosystème reconnaît que l'entrepreneuriat, c'est pas juste les levées de fonds, les chiffres, la croissance, les licornes et tout ça, mais aussi de reconnaître, c'est aussi la créativité, la flexibilité, la liberté pour chaque personne de pouvoir créer pour soi.
Et alors, la performance, quand elle s'applique à toi, c'est vraiment, t'es performante quand tu fais quoi ? Quand t'es justement créative et libre ?
Oui, en vrai, je pense que oui. Bah, Station F, on a de la liberté parce qu'on n'est pas du tout dans cette logique de devoir générer beaucoup de chiffres. En fait, Station F, depuis le début, on veut juste être à l'équilibre. C'était la demande de Xavier et on est à l'équilibre depuis le début. Donc, l'idée, c'est de juste générer de l'argent pour pouvoir réinvestir dans nos activités et développer nos activités pour nos entrepreneurs. Je trouve ça assez sain, en vrai. Et du coup, la performance pour nous, c'est déjà quand on arrive à atteindre cet objectif, parce que sinon, Station F n'existe pas. Mais en vrai, je pense que c'est aussi quand on a des startups qui sont contentes de ce qu'on fait et ce qu'on propose. Donc, tous les différents projets, les initiatives, de pouvoir accueillir des profils de partout, des profils qui couvrent des différents secteurs, qui répondent à des besoins qui changent en permanence. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on mesure la performance. Et évidemment, on regarde aussi si nos startups arrivent à atteindre leurs propres objectifs qui souvent sans chiffrer. Mais voilà, on essaie toujours d'aider cet état d'esprit, cette créativité.
Quels sont tes rituels, tes habitudes qui te permettent de recharger tes batteries et de repartir du bon pied? De quoi est-ce que tu as besoin pour être dans de bonnes conditions?
L'organisation, pour moi, c'est extrêmement important. C'est quelque chose où je pense que j'ai dû faire énormément de travail et de progrès. Quand j'étais chez Microsoft, je me considère comme mal organisée à cette époque-là. Quelles étaient mes priorités, comment m'organiser en termes de temps. Je ne savais pas dire non aux demandes où j'estimais que ce n'était pas forcément pertinent ou nécessaire. Je ne savais pas comment dire à quelqu'un, au lieu de faire un rendez-vous, est-ce que tu peux me poser tes questions par mail? Je peux aller plus vite, je peux te répondre plus vite même. Et avec Station F, en fait, quand j'ai pris le poste, j'ai su tout de suite qu'avec l'ampleur du projet et la variété d'acteurs qui voulaient contribuer et être impliqués, il fallait que je mette tout de suite un cadre pour moi-même, sinon ça n'allait pas fonctionner. Donc, je fonctionne vraiment en priorité. J'ai testé énormément d'outils de productivité, mais finalement, je trouve qu'en fait, les choses assez classiques fonctionnent plutôt pas mal. To-do list assez classique, je n'ai pas besoin de plein d'outils pour me rappeler ceci, cela. Je suis sur mon calendrier, je pense, la moitié de la journée, juste pour vérifier que voilà, tout rentre dans mon agenda. Et sinon, j'essaye de, quand je quitte le bureau et quand je ne regarde pas mes mails en permanence, je ne check pas mes mails tout le temps, donc en fait, de bien distinguer entre là, je suis au travail, je me donne à fond, et là, je suis chez moi et je n'ai pas besoin d'être connectée en permanence. Le week-end, pareil, je me repose et j'encourage l'équipe à faire pareil. Je pense que c'est extrêmement important que si on ne met pas cet exemple-là, l'équipe sera moins à l'aise pour faire pareil. Donc, c'est pareil pour les vacances. Et voilà, ça, c'est des choses que j'ai changées avec Station F parce que ce n'était pas le cas avant.
Tu te donnais à fond sans déconnecter jamais?
Ouais, et en fait, j'ai vécu, Microsoft, j'ai vécu vraiment des moments très difficiles en termes d'organisation, en termes d'énergie, en termes d'envie de travailler. Et pareil, même pour TechCrunch que j'ai fait avant Microsoft, j'avais l'impression qu'il fallait toujours sortir l'article avant tout le monde, il fallait toujours être connecté pour savoir ce qui se passe, et j'avais vraiment du mal à me déconnecter. Et là, c'est moins le cas.
Et sinon, est-ce que tu as d'autres habitudes? Je ne sais pas, est-ce que le sport est particulièrement important? Est-ce que voir tes amis faire la fête, comment est-ce que tu décompresses, quoi?
Avec tout ce que tu viens de dire, je vois mes amis, je joue un peu de piano, je passe un peu de temps en famille, j'essaye de avoir des projets, même si ce n'est pas des projets qui vont vraiment donner quelque chose. J'essaie de toujours avoir quelque chose qui est un peu loin du monde de la tech, juste pour... j'essaie de lire parfois des choses qui ne sont pas des livres business, j'essaie de dessiner de temps en temps, d'écrire quelque chose qui n'a pas de lien avec le travail. Donc, je pense que c'est important pour... juste déconnecter, penser à autre chose. Quand j'ai des vacances, j'essaie de bouger, de quitter Paris, de voir autre chose. Donc voilà, tout ça, c'est super important. Et sinon, je reviens quand même sur quelque chose qui m'aide dans ma productivité. Il y a beaucoup de gens qui détestent les transports. Moi, j'aime bien les transports parce que je considère que ma journée commence dans les transports. Donc, je check mes mails quand je rentre dans le métro. Quand j'arrive au bureau, je sais que je n'ai plus besoin de traiter mes mails de la matinée. Et c'est pareil, quand je quitte le bureau, je n'ai pas besoin de checker mes mails en fin de journée parce que je sais dans le métro, je vais pouvoir le faire avant de rentrer chez moi. Donc, vraiment, j'utilise ce temps pour gagner un petit peu. Et après, quand je rentre chez moi, normalement, j'ai fini de traiter mes mains dans le métro et je peux maintenant passer à autre chose.
Alors tu dis, j'essaye de dessiner, tu dis j'essaye parce que ça demande un effort.
Ça demande un effort, oui, je mets ça dans mon agenda.
Ah ouais. Tu mets tes temps perso, tes activités perso.
Ou parfois, je mets juste des rappels parce que je pense que si ça montre aussi un engagement de vouloir le faire, si je mets ça au même niveau que mes autres priorités pour le travail. Oui, c'est souvent le soir, c'est souvent le week-end, mais je mets quand même dans mon agenda, oui.
On a essayé de déconstruire la notion de performance un peu plus tôt. On a aussi parlé de productivité, mais on y reviendra. Je te propose de faire la même chose avec la notion d'échec. Dans les années 2010, tu as importé la FailCon en France, un événement qui avait pour but de dédramatiser l'échec. Qu'est-ce qu'un échec pour toi et comment réagis-tu en situation problématique ?
L'échec, c'est quelque chose que, quand j'ai décidé de monter FailCon en France, c'était parce que je sentais qu'il y avait vraiment un gros besoin. C'était pas forcément des échecs catastrophiques où tout se passe mal, on ferme la boîte et tout est détruit et voilà, c'est vraiment catastrophique. C'était plus, je sentais vraiment une malaise à parler juste de ces erreurs, ces apprentissages. Et ça, pour moi, c'était presque ridicule parce qu'aux États-Unis, j'avais connu complètement autre chose où on part de façon très libre de ses erreurs. J'ai mal fait ça, j'ai appris telle chose. Voilà. On partage ça même pour que d'autres personnes ne fassent pas la même chose. Et donc, j'ai senti ça même en cours à Sciences Po. Je suis venue en master et en fait, même poser des questions en cours, j'étais choquée de voir en fait, il y a des bonnes et des mauvaises questions. Quoi. Enfin, c'était pas le cas aux US, c'était toute question vraiment. Il faut se sentir à l'aise pour poser des questions, pour apprendre. Et donc voilà, c'était quelque chose où je me disais, il faut vraiment qu'on ouvre la discussion sur les erreurs, sur l'échec du coup, en France. Et on a monté une première édition de la FailCon qui s'appelait FailConf. Mais il fallait plusieurs éditions pour que les gens se sentent vraiment à l'aise à parler de leurs erreurs et du coup leurs échecs. Je pense peut-être le mot échec, parfois c'est très lourd. Mais voilà, c'est vraiment une histoire d'apprendre et de partager ce qu'on a appris.
Cette vision très US de l'échec, c'est considérer qu'une erreur est juste ce qui permet de mener à la réussite. C'est un apprentissage.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a une croyance que si on n'est pas en train de faire des erreurs et en train d'échouer, on n'est pas en train d'apprendre. Donc justement, si on n'est pas en train d'apprendre, on n'est pas en train d'avancer. L'entrepreneuriat, c'est faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc c'était nécessaire pour moi d'ouvrir un peu cette discussion et de dire vraiment, ça fait partie du jeu. Si tu es mal à l'aise avec ça, il ne faut pas le faire. Et sinon, je pensais aussi qu'on pouvait éviter plein d'erreurs si on en parlait très librement en donnant les leçons aux autres. Donc c'est vraiment ça qu'on essaie de faire avec la conférence.
Et ça veut dire que toi tu rebondis très bien quand tu rates quelque chose ou quand tu essuies un échec et tu passes vite à autre chose?
Non, pas toujours, bien sûr que non. Je pense que pour tout le monde, c'est quand même quelque chose de difficile. Mais je pense que si on est entouré de personnes qui ne vont pas nous regarder en mode « Ah, mais erreur, c'est quoi cette merde qui s'est passée là ?» Je pense que si on est avec des gens qui nous encouragent et qui sont un peu dans le même état d'esprit que nous, ça va vraiment aider. Et donc, c'était pour moi une nécessité pour cet écosystème pour avancer.
Es-tu quelqu'un de stressé et comment réagis-tu au stress ?
Je pense que je vis le stress de mieux en mieux. Il y a eu des moments vraiment assez stressants dans le lancement de Station F. Il y avait des sujets que je maîtrisais beaucoup moins, les sujets en lien avec le bâtiment, où vraiment je pense que j'étais stressée pour prendre des décisions parce que je connaissais tellement mal le sujet, je ne voyais pas ce que ça pouvait donner comme réalité par la suite. Mais sinon, en vrai, je pense que j'essaye d'être maintenant très consciente de quand je suis stressée, d'être très consciente de ce que ça me fait et j'essaie de le maîtriser. Mais évidemment, ça ne se maîtrise pas toujours. Il peut y avoir des stress qui arrivent de dernière minute. Mais je pense juste en avoir conscience et de travailler sur ça, c'est très important. Je pense qu'en fait, c'est dans la préparation pour moi. C'est des choses qui vont me stresser, c'est quand je me sens mal préparée, quand je me sens... j'étais dans le bain et il faut vraiment se démerder, donc ça peut être par exemple même des choses comme aujourd'hui prendre la parole sur un sujet où j'ai moins l'habitude d'en parler, ou ça peut être sur, je sais pas, on lance un projet où on va aller dans une discussion sur un sujet que je maîtrise pas. En fait, maintenant vraiment je me donne le temps pour me préparer et comme ça j'arrive et je suis moins stressée naturellement.
Et quelle place accordes-tu à ta santé mentale, pour toi mais aussi pour tes équipes?
La santé mentale, pour moi, c'est Enfin, je pense que c'est assez en lien avec pouvoir se déconnecter, avoir un équilibre avec son travail et sa vie perso. Je pense que c'est aussi bien gérer le stress. Enfin, je pense que c'est plein de différents sujets dans son ensemble et c'est extrêmement important pour moi. Et c'est aussi, je pense, enfin, on ne peut pas toujours imaginer ce qui se passe dans la vie perso de quelqu'un aussi. Donc, se donner le temps pour digérer les différentes choses qui arrivent dans sa vie. Donc, moi, j'essaye déjà pour moi-même de mettre en place tout pour que vraiment je me sens bien au quotidien, que ça soit au travail, à la maison, dans les différentes situations. Et pareil pour mon équipe. Donc, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en mode « j'ai telle chose qui s'est passée dans ma vie perso », t'as pas besoin de venir au bureau, prends le temps qu'il faut. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut s'adapter à chaque situation. Je peux pas imaginer tout. Je dis pas à tout le monde de venir me voir demain en me disant qu'il se passe quelque chose à la maison. Mais je pense vraiment que c'est extrêmement important de reconnaître ces différents moments et de s'ajuster en fonction. Donc, santé mentale est extrêmement important.
Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu mènes une vie équilibrée?
Moi, je pense que oui. Je pense que oui, je me sens extrêmement bien, enfin, physiquement, mentalement. J'ai hâte d'aller au travail. J'aime aller au travail. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. C'est marrant parce que souvent, on parle de remote et travail en remote. Moi, j'aime bien voir mon équipe. J'aime bien voir les gens à Station F. Vraiment, c'est un plaisir. Et je pense que si je n'avais pas cet équilibre, ça serait vraiment différent. La période que j'ai passée chez Microsoft était le plus difficile et moins équilibrée pour moi parce que vraiment, j'avais du mal à dire non, j'avais du mal à m'organiser, j'avais juste complètement du mal avec cet équilibre. Et du coup, chaque personne que je rencontrais, je ne pouvais pas donner le temps à cette personne. Ça ne me donnait pas de l'énergie, ça me prenait de l'énergie. Je rentrais chez moi épuisée alors que j'avais l'impression d'avoir pas fait la moitié des choses qu'il fallait faire. Donc, c'était vraiment un cercle vicieux. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est plus ou moins l'inverse. Il fallait passer par plein d'étapes. Je pense qu'un élément aussi qui était très compliqué pour moi, c'était apprendre à dire non. Mais pas dire non en mode « je refuse, je ne fais pas », mais juste « je fais différemment ». Donc, les personnes qui me... Je reçois beaucoup de demandes différentes aujourd'hui. Ça peut être, je ne sais pas, je travaille sur un master, j'ai besoin d'aide, je veux venir à Station F, je veux lancer un projet avec Station F. Je reçois beaucoup de demandes et souvent les demandes viennent en forme de prise de rendez-vous. Et dire, désolé, je ne peux pas faire un rendez-vous, mais je veux quand même t'aider avec ta question. Est-ce que tu peux me poser tes questions par mail? Et en fait, parfois les gens disent oui, parfois les gens disent non. Mais enfin, avoir peur de dire « non, je ne peux pas prendre ce rendez-vous », ça m'a bloqué énormément. Et aujourd'hui, je gagne beaucoup, beaucoup de temps en passant par mail, en travaillant les différents formats de recevoir ces demandes.
Comment est-ce que tu jongles entre ta charge mentale perso et ta charge mentale professionnelle?
En termes de charge mentale, j'ai une to-do list où je mets tout ma vie. je ne sais pas, préparer mes impôts... aller chercher quelque chose, enfin, je mets tout. Et comme ça, je vois vraiment tout ce que je dois traiter dans ma vie. Tout va dans mon agenda à un moment donné. Et c'est comme ça que je gère. Donc, je n'ai pas l'impression que ça me pèse particulièrement. Et je traite tout de la même façon. Donc, vraiment, non, je pense que vraiment, écrire quelque chose et le sortir de sa tête, que ça soit quelque chose à traiter, une tâche à faire, ou que ça soit un sentiment... Une fois que c'est sorti de ma tête, j'y pense plus.
Un sentiment.
Ça peut être un sentiment. Ça peut être, je ne sais pas, je suis frustrée ou je ne sais pas, je n'arrive pas à prendre une décision sur telle chose. Parfois, l'écrire, ça permet juste de le sortir et ça pèse beaucoup moins.
Et on a parlé de performance et d'échec, mais on a oublié un autre grand buzzword de l'entrepreneuriat. On l'a évoqué très rapidement, la productivité. Est-ce une notion importante pour toi et comment est-ce que tu réagis face aux ayatollahs de la productivité qui officient sur LinkedIn et en librairie?
C'est très marrant, la productivité. Bah, productivité, pour moi, c'est juste organisation. Hein. C'est pas un truc vraiment très différent. Il y a peut-être dans le mot productivité une notion d'aller vite, mais je pense pas que ça soit forcément nécessaire. En vrai, j'avais des phases où je testais, je lisais beaucoup sur la productivité. Personnellement, ça m'aidait pas plus que ça parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sortent. passer du temps. En fait, il y avait une période où je téléchargeais, j'installais plein d'applications de productivité, je mettais tout, je voyais est-ce que je suis plus à l'aise là ou là. En vrai, je suis revenue à la liste classique qui s'affiche dans ma boîte mail où je passe quand même beaucoup de temps. Donc, je vois en permanence ma to-do list toute la journée. Et en fait, j'ai un sentiment de vouloir enlever des choses. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'aide à avancer naturellement. Et je pense que j'ai mis beaucoup de temps pour me rendre compte. C'est un truc tout bête et hyper classique qui fonctionne mieux pour moi. Et un agenda aussi, ça n'a rien d'extraordinaire. Agenda classique, Google Calendar, je mets tout dedans. J'ai mon agenda accessible à toute l'équipe aussi. Comme ça, ils voient. Roxane est dans le métro à telle heure. mais voilà, comme ça, vraiment, je sais où je dois être et ce que je dois faire à chaque moment. Ça m'enlève beaucoup de pression et c'est ça ma façon d'être productive.
Et si tu pouvais revenir en arrière, y a-t-il des choses que tu ferais différemment ?
Oh là là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Avec Station F, on parlait des échecs, des erreurs tout à l'heure, mais il y a eu plein d'erreurs et d'échecs et des choses qu'il fallait retravailler, refaire, relancer, ne plus jamais faire qu'on a fait à Station F. Et je pense à un exemple que j'adore, mais qui est extrêmement parlant à beaucoup de personnes qui étaient à Station F au début, c'est qu'on a lancé Station F sans service client. On a oublié le service client. C'est juste... on avait regardé... On a pris plein de leçons des différents espaces start-up dans le monde, mais de beaucoup plus petite taille. Et du coup, il n'y avait pas de service client, il n'y a pas besoin. Il y a 10 start-up, on connaît tout le monde, on peut parler avec tout le monde. Et là, Mean Start-up, on a juste complètement zappé qu'il fallait des outils pour. Donc voilà, aujourd'hui, on a corrigé ça et on essaie de mettre beaucoup, beaucoup d'attention sur l'expérience client.
Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une entrepreneuse ou à un entrepreneur qui se lancerait aujourd'hui ?
Bien s'entourer, je pense que je mets encore l'accent sur ça. Bien s'entourer, les bonnes personnes, prends le temps. Et surtout pour les personnes qui se lancent, je pense que c'est les premières personnes d'un projet qui met le ton. Donc il faut prendre son temps, il faut faire des tests parfois. Je pense que les gens qui décident trop vite de s'associer sans vraiment, je sais pas, passer un week-end, passer une semaine, passer 3 mois, s'il faut, pour voir si ça match. Je pense que c'est ce qu'il faut pour vraiment être bien dans son projet et bien par la suite. Donc vraiment, ne pas prendre ça à la légère. C'est peut-être un de mes plus gros conseils. Mais sinon, c'est aussi parce que tu as dit les gens qui veulent se lancer aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... Enfin, monter sa start-up est devenu vraiment quelque chose de très sexy et tendance. Mais je suis convaincue qu'il y a plein de choses à faire autour de monter sa start-up. On peut monter un projet. Moi, je n'ai jamais monté une start-up. Hein. J'ai monté plein de projets entrepreneuriaux qui m'ont donné aussi une même énergie. Enfin, je pouvais monter un média, j'ai monté une conférence, j'ai monté une association, plein de différents projets. Et donc, je pense aussi que les personnes qui se forcent à monter une start-up, peut-être il faut aussi réfléchir à, je commence avec un petit projet et peut-être ça peut emmener vers une start-up. Il y a aussi plein d'exemples de start-up qui ont commencé comme ça. Ça a commencé une newsletter, ça a commencé un YouTube, ça a commencé avec juste quelque chose où la personne faisait quelque chose dont elle était passionnée. Et de petit en petit, c'est devenu un business. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'il faut commencer et ne pas forcément se forcer à monter une entreprise aussi parce qu'on est entouré aujourd'hui par d'autres personnes qui sont en train de le faire.
Merci beaucoup, Roxane, pour ton temps et d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, c'était un plaisir.
Ce podcast vous a été présenté par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. Envie de découvrir plus de témoignages ? Écoutez les autres épisodes dans Off. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.